Bonsoir, bienvenue au Collège supérieur pour ceux qui découvrent ce lieu. Nous sommes donc rassemblés ce soir autour d'une question dont l'importance et l'actualité n'échappent à personne. Morale et politique sont-elles inconciliables ? Je commence par une petite page d'information, puisque si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas complètement indifférent à la réalité politique. Il n'a pas dû vous échapper, si vous vous informez un peu, que nous sommes dans une période de campagne électorale que dans le cadre de cette période de campagne électorale, le Collège supérieur propose 3 conférences pour aider au discernement, en particulier dans une inspiration chrétienne, puisqu'on ne peut pas dire que les questions inspirées de la foi chrétienne soient urgentes et présentes de manière prioritaire dans cette campagne. Et la prochaine conférence, donc il y a eu 2 conférences qui se sont tenues avec un public nombreux et des conférences de très grande qualité. Et ça sera la même chose pour la prochaine par Pierre-Yves Gomez le 2 avril sur la question « Le capitalisme a-t-il un avenir ?» Je crois que c'est le lundi 2 avril. Ne manquez pas cela. Pierre-Yves Gomez est un économiste bien connu sur Lyon. Il enseigne à l'EM Lyon et il est directeur d'un institut de recherche, je ne sais plus lequel. Et c'est un des hommes qui invente dans le secteur de l'économie, qui produit une pensée originale qui mérite vraiment d'être entendu. Donc ne manquez pas de venir si vous êtes libre le lundi 2 avril. La question qui nous réunit, c'est donc la question du lien entre la morale et la politique. Alors il est clair que je ne parlerai pas de la moralité des hommes politiques, que nous ne nous pencherons pas sur le côté anecdotique et cependant essentiel de la question. Non, je traiterai la question en philosophe et j'aimerais presque commencer par Rousseau, comme Rousseau, en disant « commençons par écarter tous les faits ». Parce que ce qui m'intéressera, ça sera la nature de la politique et comment cette nature de la politique renvoie à des responsabilités morales. Comment exige-t-elle ou rend-elle difficile ces responsabilités morales ? Il est donc inutile d'entonner le chant du tous pourri, de dire que le pouvoir corrompt, que, selon le beau mot d'Alain, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend fou absolument. Ces propos convenus sont évidemment l'envers d'un grand prestige placé dans la responsabilité politique. Si nous sommes sensibles au fait qu'ils sont tous pourris, c'est que cela déçoit une grande attente. Et ça n'est pas du tout la même déception que nous aurions à l'égard, je ne sais pas quoi, d'un champion sportif. Parce que, précisément, la fonction politique apparaît éminente, non pas par la gloire qui l'entoure, le prestige qui fait que l'homme politique est exposé à tous les regards, comme quelqu'un qui a presque la position d'une idole. Nous sommes parfois déçus de la médiocrité des hommes politiques par rapport au prestige qu'ils ont, c'est plus non pas à cause de la gloire qui est la leur, mais de la responsabilité qui est la leur. Puisqu'il est clair pour chacun que la responsabilité politique est la plus générale, la seule responsabilité qui engage le destin de tous les contemporains d'une même génération, d'une même cité. Toutes les autres responsabilités ont un côté partiel, relatif, alors que la responsabilité politique a pour propre, nous verrons pourquoi d'ailleurs, de pénétrer toutes les sphères d'activité. L'économie, la famille, la culture, la religion, l'école, aucune, vous ne pourriez pas citer une seule sphère d'activité qui échappe à la responsabilité politique. C'est d'ailleurs ce qui justifie, si le mot est juste, une pensée totalitaire, dans la mesure où la pensée totalitaire est bien celle qui prend acte du fait que toute réalité engage le politique et que par là même il a son regard à porter sur toutes les réalités qui font vivre la cité. On n'entendra donc pas le chant du tous pourri. On s'attachera plutôt à l'éminente dignité de cette fonction. Toutefois, on sera alerté par une difficulté intrinsèque à cette fonction. C'est-à-dire que si les hommes politiques nous donnent parfois la sensation d'être corrompus, violents, de piétiner les exigences élémentaires de la vérité ou du respect, c'est peut-être parce que la mission politique exige par elle-même, selon un mot bien connu, de se salir les mains. Et que de recourir à des moyens où la force a nécessairement sa part, qui sont donc ceux de l'argent, ceux du discours, dans ce qu'il peut avoir de manipulateur, car le discours est la seule manière que l'on ait de mettre en mouvement les foules, il n'y en a pas d'autre, la musique peut-être. Mais le discours est la meilleure des musiques. Et donc la fonction même de la politique, quand bien même l'individu politique serait-il une âme innocente et virginale, est peut-être porteuse d'une contradiction, la contradiction ultime qui consiste à agir pour le bien commun dans un contexte de lutte. Si ce n'est pas une contradiction, ça, énoncer le bien commun dans un contexte de lutte et lutter contre l'autre pour énoncer ce bien commun. De telle sorte que ce bien commun qui a pour horizon l'amitié des hommes, au moment où l'on commence à l'évaluer et à le définir à travers telle ou telle action, se heurte aussitôt à la position de l'inimitié des hommes. La question politique se résume donc au fond à ami ou ennemi. Il n'y aurait pas de cité s'il n'y avait pas une amitié naturelle de l'homme pour l'homme. C'est ce que nous dit Aristote, il y a une amitié naturelle de l'homme pour l'homme. Et si d'aussi loin qu'un homme aperçoit un homme, il est attiré par cet autre homme, fût-ce à travers les brouillards de la Patagonie. Mais si dans les brouillards de la Patagonie j'aperçois une silhouette d'homme, je suis tenté d'appeler « Ohé !» Ah, mais peut-être est-ce un ennemi. Et si je n'ai pas vu sa plaque d'immatriculation, si je ne suis pas assuré que c'est un 69, je me méfierai. Donc face à l'homme, il y a une attirance naturelle pour l'homme et une hostilité non moins naturelle, ami ou ennemi. S'il n'y avait pas d'amitié naturelle de l'homme pour l'homme, il n'y aurait pas de cité du tout. S'il n'y avait pas d'inimitié naturelle de l'homme pour l'homme, il n'y aurait pas de politique du tout. Nous vivrions une sorte de pastorale permanente, ponctuée de quelques danses de bergers sympathiques, et nous serions dispensés donc d'avoir tout le temps cette âpre discussion, ces difficultés qui font que, au fond, on est tout le temps entre la violence et la négociation. Voilà la lourde et belle responsabilité proprement politique, déterminer le bien commun en ayant des ennemis. Je dis d'ailleurs bien des ennemis. Vous remarquez que je ne dis pas des adversaires. On a des adversaires en sport. Et on se serre la main à la fin du match. En politique, on fait semblant aussi. Mais il y a une différence entre l'adversaire et l'ennemi, c'est que l'ennemi, c'est celui qui veut ma mort. Et il y a dans la lutte politique aussi cette dimension de l'horizon de la mort civile, de celui qui est à jamais humilié et écarté de la vie publique par une infamie, de la mort réelle, de celui qui va subir un attentat. Cela nous a été rappelé récemment, il n'y a pas de politique sans qu'il y ait l'horizon de la mort. Et notre société un peu douceurette et gentille a eu la surprise de voir sur ses écrans, il est vrai que c'était sur les écrans, l'apparition de l'urgence de la décision devant la possibilité de la mort. Dans un premier temps, nous reviendrons donc à la description de ce qu'est la politique. Qu'est-ce que c'est vraiment que la politique ? Je risquerai quelques propos là-dessus. Dans un deuxième temps, je montrerai pourquoi, dans ce que l'on peut appeler le moment moderne, qui commence au XVIIe, mais qui en politique est de loin précédé par Machiavel, qui est bien antérieur au XVIIe, et comment donc dans le moment moderne, la question des rapports entre politique et morale a été posée de manière nouvelle et dans laquelle nous sommes encore pris. Et puis, comme il faut savoir prendre des risques, y compris celui du ridicule, je proposerai dans une troisième partie quelques pistes de résolution de cette difficulté. Premièrement, qu'est-ce vraiment que la politique ? Il y a une nécessité, dans toute vie collective, de coordonner les activités. Sur un chantier, dans une entreprise, dans une école, dans une famille, il y a une nécessité de coordonner les activités. Ces activités coordonnées donne le sentiment que un chef d'orchestre donne une impulsion et attribue à chacun sa partition. Et que quand on voit des gens faire des actes de manière ordonnée, on se dit que quelqu'un commande. C'est pourquoi une armée qui défile est un signe de puissance. Parce que quand on voit des hommes faire tous ensemble la même chose, on se dit, il y a quelqu'un qui commande. Et la figure du pouvoir passe par cet ordre. Alors, dans le cas de l'armée qui défile, cet ordre est simple, il est tout mécanique, il est uniforme, dans tous les sens du mot. Il est plus complexe dans une armée en campagne. Car ce ne sont pas les armées qui défilent, qui l'emportent, c'est les armées en campagne. Et il est plus complexe dans un atelier, il est plus complexe dans une entreprise, et combien plus dans une famille. L'ordre est donc, comme le rappelle avec force Simone Veil, le premier bien politique. Force de l'ordre, maintien de l'ordre, volonté de l'ordre. Pour Malebranche, l'ordre est la première des vertus, l'essentiel des vertus. Et Simone Veil, dans l'Enracinement, quand elle dresse la liste des besoins fondamentaux de l'âme, Relisez l'Enracinement, c'est un très beau livre. Dans ces besoins fondamentaux de l'âme, curieusement, contre sans doute ce que nous aurions fait nous, elle dit, le premier besoin de l'âme, c'est l'ordre. C'est-à-dire de vivre sans contradiction. Et d'avoir la possibilité de prendre part à la vie de la cité sans contradiction. On peut dire qu'une cité est injuste si elle m'oblige à choisir une valeur contre une autre, à choisir un engagement contre un autre, à me scinder en quelque sorte et à m'empêcher d'unifier mon être dans mes engagements. Une cité qui me dit « Tu n'as pas le droit d'enseigner si tu... » Par exemple, « Tu n'as pas le droit d'enseigner si tu avoues une confession religieuse » est une cité qui est désordonnée, qui est injuste, qui porte une violence, puisqu'elle oblige celui qui veut participer à cet ordre à sacrifier quelque chose de soi. C'est peut-être nécessaire. Et c'est bien pour ça que il n'y a pas de politique sans violence. Puisqu'il n'y a pas d'ordre qui, d'une manière ou d'une autre, n'exige de chacun d'entre nous d'avoir à sacrifier l'une ou l'autre de ses exigences, l'une ou l'autre de ses valeurs. Et s'il y avait une cité parfaitement ordonnée, ça serait donc une cité dans laquelle chacun pourrait, de manière unifiée, prendre part à la cité en accomplissant toutes ses possibilités, toutes les vocations qu'il éprouve comme étant les siennes, toutes les exigences qui sont les siennes. Cette coordination, donc, je le disais, passe par la distribution de ce que l'on appelle le pouvoir. Le pouvoir, c'est la probabilité que l'on a de voir sa volonté exécutée par un autre. J'ai du pouvoir dans la mesure où il y a une certaine probabilité que je vois ma volonté exécutée par un autre. Si je dis « j'ai oublié mon pull dans la salle à manger » et qu'aussitôt quelqu'un se précipite, j'ai du pouvoir. Si je dis « va chercher mon pull dans la salle à manger », j'ai déjà un peu moins de pouvoir. Mais j'en ai encore. Et si je dis « va chercher mon pull dans la salle à manger » mais que personne ne bouge, mon pouvoir est complètement remis en question. Possibilité d'obtenir d'un autre qu'il réalise ma volonté. Le plus souvent, et c'est là que nous commençons à rentrer dans la politique, le chef d'orchestre est invisible. Par exemple, ce soir, le chef d'orchestre est invisible. Qu'est-ce qui fait que nous nous tenons à carreau, que chacun d'entre vous a l'air fort poli? Je vous remercie. On ne sait pas qui est le chef d'orchestre. Où est-il? Ça n'est même pas moi, puisque je ne suis que un des... Je suis peut-être le premier pupitre, je ne sais pas, mais je ne suis qu'un des éléments de cet orchestre. Ceci pour mettre en évidence que le plus souvent, quand je dis le plus souvent, c'est dans des proportions qui sont sans doute immenses, le pouvoir est tacite et invisible. Le ballet est réglé par un maître imperceptible, caché dans l'ombre peut-être. C'est l'usage qui règle le ballet. Qui commande cet usage? Contre qui faudrait-il protester pour remettre en cause cet usage? Bien difficile à dire. Qui irez-vous chercher? Ou, à la rigueur, si ce n'est pas l'usage, c'est la compétence qui règle le ballet. De telle sorte que là où l'usage règne, là où la compétence règne, il n'y a pas de problème politique. On peut le supposer ce soir, par exemple. Car à la rigueur, on peut supposer que si je suis dans cette pièce un des plus compétents en philosophie, si vous me faites confiance en cette compétence, je suis ainsi conduit à vous réduire au silence le plus terrorisé et diffuser, imposer une connaissance qui sera validée parce que relevant d'une compétence. Une hiérarchie règne donc invisible dans le salon où chacun connaît les usages et où la conversation ronronne, meso voce. Une hiérarchie peu visible règne sur le chantier, sur l'atelier, où les forces sont coordonnées. Je fais partie de ces vieux monsieur qui aiment beaucoup regarder les chantiers. C'est un spectacle vraiment merveilleux que celui d'un chantier, où l'on a un véritable ballet de matière, où on voit une volonté qui s'exerce, coordonne des efforts de manière toute machinale pour l'obtention d'un but. Retenez bien ça, pour l'obtention d'un but. Coordonner des efforts en fonction d'une compétence pour l'obtention d'un but. Alors on dira, avec Aristote, qu'il y a politique lorsque le pouvoir est réversible. C'est-à-dire qu'il n'y a politique qu'entre égaux. Imaginons que je sois compétent. Si je suis compétent, personne ne peut dire « Pourquoi tu es sur l'estrade, toi ?» Et surtout, personne ne va aller dire « Je voudrais prendre sa place. » Qu'il s'en garde bien. Et parce que la compétence donne un crédit suffisant à ce pouvoir, à cette asymétrie fondamentale du pouvoir. Et donc, il n'y a que là où chacun, c'est ce que dit Aristote, il n'y a que là où chacun peut tour à tour commander et être commandé qu'il y a de la politique. Supposez que l'un d'entre vous se dise, et il y en a dans la pièce qui peuvent le dire, qu'ils sont aussi ou plus compétents que moi, alors ils peuvent faire de la politique et dire, mais au fond, si je prenais sa place... Et ils peuvent remettre en question ce qu'ils font de juridiquement la place que je tiens ce soir. C'est une grande surprise que de partir de cette constatation, il n'y a de politique qu'entre égaux. Il n'y a pas de rapport politique entre le maître et l'esclave. Il n'y a pas de rapport politique entre l'homme et la femme, pour Aristote. Il n'y a pas de rapport politique entre le professeur et l'élève, entre le général et les subordonnés. Sauf si je dénonce que, en fait, quiconque pourrait prendre leur place. Qu'est-ce que c'est que l'émancipation des femmes ? L'émancipation des femmes, c'est dire il n'y a rien de naturel et d'inévitable à ce que l'homme commande la femme. Et après tout, la fonction que tu remplis, je pourrais aussi bien la remplir. Du temps où les femmes ne conduisaient pas, du temps où les hommes ne faisaient pas la cuisine, les femmes ne pouvaient pas dire « Passe donc la troisième !» Et les hommes ne pouvaient pas dire « C'est trop cuit. Je ne peux rivaliser et critiquer la position de l'autre que dans la mesure où je peux me substituer à lui, c'est-à-dire que dans la mesure où nous avons les mêmes fonctions, les mêmes compétences, les mêmes responsabilités, le même horizon, il n'y a de politique qu'entre égaux. Et à ce moment-là, si je pose l'égalité, mettons, entre l'homme et la femme, alors je dévoile l'aspect politique de la domination masculine. Si je mets au jour l'égalité de l'esclave et du maître, alors je dévoile la dimension politique du pouvoir du maître. Et tout le travail d'émancipation consiste justement à mettre en lumière la dimension politique de toutes les hiérarchies. Ce fut un grand exercice post-68ard et un exercice assez salubre. Toute hiérarchie, padre, padrone, étant assimilée, que ce soit celle du père, celle du patron, celle du curé, celle de l'époux, celle du professeur, toute hiérarchie étant assimilée à une hiérarchie politique, c'est-à-dire sommet de rendre compte de son exercice. Et ça, c'est très précieux. Parce que ça veut dire que dès qu'un homme commande à un autre homme, il doit en rendre compte. Mais si je dis, dès qu'un homme commande à un autre homme, il doit en rendre compte, vous voyez bien que la question qui se pose alors, c'est, mais devant qui va-t-il en rendre compte ? À ses égaux, qui se trouvent pendant 5 ans être ses subordonnés. Il n'y a de politique qu'entre égaux, il n'y a de politique que là où le pouvoir est réversible et que par là même, la possibilité de l'abus est dénoncée. Alors, il est clair que le travail du politique, qui commence à peine, je crois qu'on rentre à peine dans l'âge politique, le travail du politique est d'aller débusquer tous les pouvoirs non explicites. Où est le pouvoir en France ? Voilà la question qu'un homme politique doit se poser. Où est le pouvoir en France ? Au Palais Brongniart ? À la télévision, je ne sais pas où c'est, qu'est Branly ? À la télévision ? À l'armée ? Est-ce que le pouvoir est à la bourse ? Est à l'armée, est à la télévision, est en l'église, etc. Si je suis un responsable politique, je dois aller retirer de leur antre tous les pouvoirs occultes. Et donc je dois traverser de la lumière des institutions tous les lieux où un homme exerce une responsabilité dont il est pour l'instant exonéré d'avoir à rendre compte. Il n'y a pas de plus grande urgence pour le politique que de savoir qui commande, et il est sûr que ce n'est pas lui. Je prends un exemple que tout le monde connaît, il y en a même qui en sont proches, c'est la raison pour laquelle il y a des élections de délégués de classe. Car le problème du professeur, c'est de savoir qui commande dans la classe. Or, je ne vous l'apprends pas, ce n'est pas le professeur qui commande dans la classe, c'est le petit caïd du coin. Et il faut aller débusquer le petit caïd du coin. Et le meilleur moyen de débusquer le petit caïd du coin, c'est de lui donner un statut politique. Mais s'il est un habile caïd, il se gardera bien d'être élu délégué de classe. Car, et c'est le deuxième point, au premier point, il y a de politique qu'entre égaux, là où le pouvoir est réversible. Mais le caïd se gardera bien de se présenter aux élections, et s'il est, par malheur, il est élu, il démissionnera noblement. Ce qui d'ailleurs lui augmentera son rayonnement de caïd. En effet, c'est une autre caractéristique fondamentale de la politique, mais que maintenant vous pouvez conclure vous-même à la suite de ce que je viens de dire, c'est que le politique, c'est le pouvoir exposé. Pierre Clastres, dans un livre maintenant très célèbre, et qui s'appelle « La société contre l'État ». J'espère que certains ici l'ont lu. Pierre Clastres, dans La société contre l'État, Pierre Clastres a vécu pendant 7-8 ans dans des tribus amérindiennes. Il en a rapporté un livre magnifique qui s'appelle « La chronique des Indiens Guayaquil ». Lisez-le. Et puis un livre plus philosophique qui s'appelle « La société contre l'État ». Et il explique bien que, contrairement à tout ce que l'on pense, y compris dans les BD et les films d'aventure, dans les tribus indiennes, il n'y a surtout pas de chef. Parce que qu'il y ait un chef, ça serait avouer qu'il y a une violence possible. Celui auquel on attribue la fonction de chef dans une tribu amérindienne, ça n'est pas celui qui a une fonction impérative. Il ne faut surtout pas qu'il commande. Car s'il commandait, alors la collectivité serait obligée d'avouer qu'il y a en elle une violence. Donc le chef coutumier ne parle pas sur le mode de l'impératif, il parle sur le mode de l'indicatif. Il dit non pas ce que l'on doit faire, mais ce qui se fait. Il n'exprime pas une parole personnelle d'où sort un ordre, il exprime l'ordre des choses. C'est la belle ambiguïté du mot « ordre ». Dire l'ordre et dire un ordre. Dire l'ordre des choses, c'est à l'indicatif. Dire un ordre, c'est à l'impératif. Et dire un ordre, c'est un aveu d'échec. Et c'est pour ça, quand je dis « va chercher mon pull », c'est un aveu d'échec. Et les parents le savent bien quand ils disent « je ne veux pas que », c'est fichu. Non, quand vous êtes parent, vous ne dites pas « je ne veux pas » ou « je t'oblige à », vous dites « ça ne se fait pas ». Ou vous dites « la place du pull est dans le placard ». Vous ne dites pas « je veux que tu mettes ton pull dans le placard ». Car vous avouez la violence. La place du pull est dans le placard. Pull égale place dans le placard. Et ainsi, la capacité, la possibilité de la violence est réduite au silence. On voit donc bien que le risque politique, c'est le plus grand risque. C'est le moment où quelqu'un est mis en lumière alors qu'ordinairement le pouvoir aime à se cacher, et qu'il est mis en lumière dans une situation telle qu'il va être conduit à parler à l'impératif. C'est donc la position la plus fragile. Par rapport à celui qui se présente comme perpétuant un ordre. Vous n'avez pas suffisamment assimilé du point de vue sensible la distinction entre l'impératif et l'indicatif, vous n'avez qu'à penser à cette scène familiale où tout le monde se reconnaît « fais pas ta commandante ». C'est vraiment un mot que tout le monde reconnaît dans les familles. Et si quelqu'un dans la famille fait sa commandante, c'est toujours au féminin, si quelqu'un de la famille fait sa commandante, justement, il fragilise au fond cette famille où l'ordre ne règne qu'à condition que personne ne commande. Sinon, on passe à la politique, il faudrait presque voter pour savoir qui commande. À ce moment-là, si on vote pour savoir qui commande, eh bien, on exhibe le conflit. Voilà la lourde et belle responsabilité de la politique, exhiber la possibilité du conflit entre égaux. D'ailleurs, radicalement, il n'y a de possibilité de conflit qu'entre égaux. Il faut que nous soyons égaux pour qu'il y ait conflit. Car la situation de la plus grande potentialité de violence, c'est l'égalité. C'est même l'identité. Comme on le sait, lorsque deux femmes ont la même robe à la même soirée. Car la position de l'égalité fait que la situation devient peau pour peau. La situation de l'égalité, c'est au fond la situation devant la mort. C'est ce que Hobbes nous décrit comme la situation anthropologique originelle. L'horizon de la mort, peau pour peau. La mort égalise tous sur son passage. Devant la mort, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, je te ferai la peau. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Le rusé peut mettre à mort le costaud. Il y a coïncidence inévitable, vous voyez, de la mise en évidence de l'égalité et de la mise en évidence de la violence. Sommes-nous égaux? On ne débattra pas de cette question. Mais on dira, quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons légitimement tous à égalité? Et je propose cette réponse qui me semble très claire, si elle ne l'est pas, vous protesterez. La situation dans laquelle nous nous trouvons tous à égalité, c'est la détermination des fins. Dans la détermination des moyens, il y a des compétences. Mais dans la détermination des fins, nous sommes tous hommes. Et donc, nous avons tous quelque chose à dire sur les fins. C'est la raison pour laquelle l'éducation et la politique sont les deux domaines où l'exercice de l'autorité fait question. L'exercice de l'autorité ne fait pas question chez le dentiste ou sur le chantier. L'exercice, pourquoi? Parce que sur le chantier et chez le dentiste, on est d'accord sur les fins. On ne discutera pas des fins, on ne discutera que des moyens. Et pour discuter des moyens, je fais confiance dans le dentiste, je suis bien obligé. Tandis que dans l'éducation et dans la politique, et dans la politique de manière encore plus claire, ce qui est en jeu, c'est les fins. Et pour la détermination des fins, il n'y en a pas un plus compétent que l'autre. Voilà pourquoi le conseil municipal sera composé d'un pâtissier, d'un coureur cycliste, d'un retraité, d'un postier. Et d'un postier à la retraite. Et le retraité, le coureur cycliste, le pâtissier, le postier peuvent déterminer les fins. Nous faut-il un pont? Ils peuvent voter, nous faut-il un pont? Ils ne savent pas construire le pont. Pour construire le pont, on fera appel aux ingénieurs du génie civil. Mais l'ingénieur du génie civil, imaginons qu'il y ait dans ce conseil un ingénieur du génie civil, il n'a pas plus d'autorité pour dire s'il faut un pont. Il n'en a pas plus que le pâtissier. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas de raison pour qu'un comité national d'éthique soit constitué majoritairement de médecins. Il ferait mieux qu'il soit constitué de malades. Mais comme nous le sommes tous potentiellement ou réellement, ça tombe bien. Puisque pour discuter des questions éthiques, un médecin n'a pas plus de compétences que chacun d'entre nous. Nous sommes rigoureusement à égalité au moment de déterminer les fins. C'est là que, pour une fois, il faut que je donne tort à ce cher et souriant maître Socrate. Parce que Socrate, qui n'aimait pas du tout la démocratie le lui a bien rendu puisqu'elle l'a condamné, critiquait la démocratie par la comparaison suivante. Sur un bateau, on ne vote pas pour savoir qui sera le capitaine du navire. Mais cette comparaison est nulle et non avenue. Parce que capitaine du navire, effectivement, il a une compétence. Là où il y a une compétence, on ne vote pas. Mais si je reprenais la métaphore de Socrate, on peut dire, sur un bateau, on peut voter pour savoir quelle sera la destination. Et pour savoir quelle sera la destination, tous les passagers sont à égalité, et même le capitaine, et même les matelots, et le mousse. Et donc, cela met bien au jour la dimension propre à la politique. Exercer le pouvoir dans un contexte d'égalité qui met en évidence la position de violence, et la seule situation d'égalité, c'est celle de l'orientation vers les fins. C'est pourquoi on s'étonne parfois qu'il n'y ait pas de compétence politique. Parce que s'il y avait une compétence politique, on ne voterait pas. Peut diriger la France un avocat, un militaire, un pâtissier, un économiste, un professeur, que sais-je. On n'attend pas de lui qu'il ait des compétences spéciales, il vaut mieux qu'il ait quelques petites connaissances de ci, de là. Mais au fond, son véritable statut d'homme politique, il est bien dans la capacité qu'il a de mobiliser les volontés, d'orienter vers une fin, de donner sens à la vie commune dans la cité. Et ceci ne passe pas par une compétence technique donnée. C'est ce qui distingue la politique et la technocratie. Puisque la technocratie, ça serait déterminer le pouvoir en fonction d'une compétence technique. Cela permet d'ajouter un dernier point à la détermination du politique. C'est donc le pouvoir entre égaux qui met en lumière le conflit lorsque il est question de la détermination des fins. Et on ajoutera avec Hannah Arendt que la politique est donc le règne de l'action. Le règne de l'action, si l'on distingue bien, distinction qui doit vous être familière si vous êtes venu plusieurs fois au collège supérieur, parce qu'on y revient souvent, tellement elle est fondamentale. Si l'on distingue bien la praxis et la poiesis, l'action et la production. Cette distinction se trouve chez Aristote. C'est le début de l'éthique à Nicomaque. Aristote dit qu'il faut distinguer la praxis et la poiesis, l'action et la production, c'est-à-dire l'agir et le faire. La distinction se comprend aisément dans la langue française, puisque l'agir est intransitif, le faire est transitif. On n'agit pas quelque chose. On fait quelque chose. On fait une chaussure, on fait un pont. On n'agit pas quelque chose. Et donc, dans la production, j'ai la détermination d'un but. Remarquez bien au passage que je dis but et non pas fin. La détermination d'un but et en fonction de la détermination de ce but, une chaîne de procédures pour réaliser ce but. Un technicien est à l'œuvre, une compétence est à l'œuvre, on donne un but, il y a une chaîne de procédures, plus ou moins accélérée, plus ou moins économique, plus ou moins efficace, pour atteindre ce but. C'est une production, c'est un faire. L'action, elle, passe essentiellement et uniquement par la parole. Car l'action fait ressortir non pas un produit, mais un événement. Une fois que le produit est achevé, au fond, il n'y a rien de nouveau. Il y a une chaussure de plus. Un vase de plus, une voiture de plus. Quand une action a eu lieu, il y a de l'irréversible, il y a de l'unique, plus rien n'est comme avant. Et le domaine de la politique, c'est bien le domaine de l'action, dont le modèle est le 18 juin, si vous voulez, et non pas de la production. Et c'est la raison pour laquelle, si la figure de la production, c'est l'artisan avec ses compétences et savoir-faire, le potier avec son tour, la figure de l'action, c'est le tribun qui n'a pas d'autre outil, n'a pas d'outil d'ailleurs, ce n'est pas un outil, n'a pas d'autre présence, pas d'autre modalité que la parole. Entre égaux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parler. Entre égaux, on ne peut que parler. Alors évidemment, c'est ce qui fait du politique, pour nous autres philosophes, notre frère, notre cousin pas toujours bien avoué. Mais nous avons en commun de n'avoir pas d'autre espace, de n'avoir pas d'autre temple que celui de la parole. Imaginez que cette conférence soit telle que votre vie soit changée à jamais. Et pourquoi pas? Alors on peut dire, cette conférence est d'une certaine manière un événement. Il y a peut-être parmi vous un futur grand homme politique, un futur grand tyran, qui dira... Ce qui m'a marqué à jamais, c'est le 27 mars 2012, une conférence de je ne sais plus qui m'a fait la distinction entre agir et produire. J'aurais produit de l'événement, de l'irréversible, du nouveau. La production fait de l'ancien, l'action fait du nouveau. Et non seulement du nouveau, mais par là même de l'imprévisible, c'est-à-dire que la prévision en politique, c'est la confusion avec le mode de la production. Et non seulement de l'imprévisible, mais l'action est telle qu'elle échappe même à ses auteurs. Une conférence de je ne sais plus qui. Et les conséquences de cette action se répercutent d'une manière qui échappe à tout le monde. Et le modèle, c'est le 18 juin. C'est vraiment le modèle d'action politique par excellence, à l'état pur, pour autant que nous connaissions la réalité historique de la situation. Ça, c'est l'analyse de la politique selon Aristote. Domaine de l'action. Et voilà pourquoi, pour Aristote, la politique, c'est dans l'ordre de l'action, dans l'ordre de la praxis, la discipline architectonique, c'est-à-dire la discipline souveraine, le plus haut point de la morale. Aristote ne se pose pas la question de savoir si la politique est morale. Pour Aristote, la politique, c'est le plus haut exercice de la morale. Car quand un homme décide avec d'autres, dans une situation où le pouvoir est réversible, il est obligé de décider selon le juste. Et il exerce sa mission d'homme. C'est là qu'il est le plus homme. C'est réservé aux citoyens, c'est interdit aux femmes, c'est interdit aux esclaves, c'est interdit aux métèques. Le citoyen est le plus homme, le magnanime, et son honneur est de participer aux assemblées, de parler aux assemblées, d'avoir le droit de parler aux assemblées et de payer des impôts. Pour Aristote, pour Platon, pour tous les anciens, il n'y a pas de contradiction entre la morale et la politique, parce que la politique, c'est l'accomplissement même de la morale. Puisque c'est l'orientation la plus noble, disons le mot, vers les fins les plus nobles, puisque dans un contexte le plus possible... lavé de violence, passant par la parole et acceptant la possibilité de la contradiction, un sujet exerce sa responsabilité. Que s'est-il passé pour que cette image change? Alors il faudrait passer beaucoup de temps, parce qu'il faudrait que nous parcourions ensemble toute l'histoire de la philosophie, on va faire vite. Situons-nous donc dans la modernité, modernité 17e siècle, précédée par Machiavel. Machiavel, c'est 1469-1525, il faut toujours se connaître les dates de Machiavel, elles sont impressionnantes. Il a plus de 100 ans d'avance sur tous les autres. C'est vraiment impressionnant. Il meurt en 1525. Et qu'est-ce qui caractérise la modernité? Je vais à grands traits. Ce qui caractérise la modernité, tout le monde a une petite idée de Descartes, c'est l'assimilation du réel à un mécanisme. C'est le mot d'ordre de Descartes, tout comprendre par figures et mouvements. Tout comprendre par rapports articulés, coordonnés de force. Le modèle dominant devient donc non pas celui de l'ordre, mais celui de l'équilibre des forces. Ce qui est très différent de la figure de l'ordre que l'on a donnée au départ. C'est à la rigueur la stabilité de l'opposition des forces. Car si les objets, comme cette table, sont relativement stables, c'est par un jeu d'opposition des forces. Et tout système physique à partir du XVIIe va être décrit comme un jeu d'opposition des forces. Et le grand pari de Hobbes qui dit, et il n'a pas tort, je suis le premier à faire de la politique une science, c'est, il dit, il y a quand même eu Aristote avant, mais bon, c'est une concession qu'il fait, sinon il est le premier et il n'a pas tort. Le grand pari de Hobbes, c'est de dire, je considérerais une société comme une horlogerie que je démontrais pièce à pièce. La dernière pièce de cette horlogerie étant l'individu. Je ne sais pas si vous avez déjà démonté une horloge ou une mobilette. Le vrai problème quand on a démonté une horloge ou une mobilette, c'est de la remonter. Je ne vous referai pas un sketch de Gad Elmaleh sur la question. Et donc il y a toujours une pièce en trop, une pièce en moins. Et donc, la question que les modernes se posent, c'est comment diable, c'est le mot, faire une société avec des individus. C'est-à-dire, comment faire une société avec ce qui défait une société. Et on voit bien que c'est le pari maximum de la politique, justement, puisque on a dit, il s'agit d'exhiber le pouvoir, de mettre au jour, de mettre de la lumière. Alors on met tellement de lumière qu'on défait toute la mécanique, et cette mécanique est traversée de lumière, mais il ne reste plus que des rouages dissociés, dont on va se demander comment est-ce qu'on va les rassembler. Alors, évidemment, un tel système, pourquoi est-il important que ce modèle s'impose? C'est parce que un système mécanique est un système auquel on peut attribuer n'importe quelle fin selon sa volonté. La modernité est caractérisée par la primauté du vouloir. La raison étant réduite étant identifiée à l'analyse des procédures au service du vouloir. Cette machine, je peux effectivement lui donner n'importe quel usage. Et donc la volonté devient d'autant plus souveraine qu'elle est maîtresse des moyens. Et qu'elle est maîtresse des moyens par l'analyse, au sens propre du mot, c'est-à-dire la décomposition, par l'analyse des forces. Et plus je dispose de l'analyse des forces, plus je me pense comme maître des moyens et plus je me pense capable de déterminer les fins. Alors évidemment, cela abolit totalement l'hypothèse de l'ami pour ne plus laisser que celle de l'ennemi. C'est la fameuse sentence que tout le monde connaît de Hobbes, homo, homini, lupus. L'homme est un loup pour l'homme. La question politique devient donc comment faire une société non solum avec des individus, mais encore plus avec des individus que l'on pensera, pour se donner plus de chances, potentiellement ennemis. Alors là, il va falloir que répondre à la force par la force, et en étant capable de d'user de cette force avec efficacité, d'où le modèle de Machiavel, vous voyez. Puisque, au fond, la réflexion de Machiavel, c'est bien celle-ci, c'est de savoir comment on prend le pouvoir et comment on le conserve, en jouant avec les forces qui sont à notre disposition. Machiavel ne fixe pas à l'homme politique un idéal à réaliser, une utopie qui serait son horizon, une société plus juste. Non, la question de Machiavel, c'est comment prendre le pouvoir et le garder. Et comment prendre le pouvoir et le garder en présupposant que les hommes sont méchants. Machiavel ne dit pas que les hommes sont méchants. Mais il dit avec beaucoup de sagacité quiconque exerce le pouvoir doit présupposer que les hommes sont méchants. Il a raison. Quand je rentre dans une salle de classe, je dois présupposer que mes étudiants sont hostiles, ignorants et de mauvaise volonté, et on se trompe rarement. Et sinon, je suis perdu. Imaginez que je rentre dans la salle de classe en me disant « Oh, c'est beau, cette jeunesse qui spontanément est aimantée par la vérité, le désir de savoir, etc. » Je suis perdu. Il faut que je les présuppose hostiles, méchants. Et donc la question devient bien, comment faire une société avec des gens dont on présuppose qu'ils sont ennemis? Et à ce moment-là, la parole a la signification d'une ruse, donc d'un rapport de force, et réapparaît ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la position de l'ennemi et l'horizon de la mort. C'est là, évidemment, que la contradiction de la politique et de la morale est maximale. Elle est irréductible. Et c'est pour ça qu'on appelle machiavélisme. Non pas la position de quelqu'un qui est immoral, mais la position de quelqu'un qui dit « la contradiction de la politique et de la morale est irréductible ». Et elle est irréductible parce que l'usage des techniques, vous voyez, des rapports de force, donc il faut penser à l'assimilation mécanique, l'usage des techniques ne répond que d'un critère d'efficacité. Et le mauvais politique, ça n'est pas celui qui a une mauvaise conception de la justice, c'est celui qui rate. Car s'il a une bonne conception de la justice et qu'il rate, eh bien il est un mauvais politique. Et la question prioritaire dans l'ordre de la politique devient donc celle de la victoire, la possibilité de l'emporter sur l'autre. Vous l'avez compris, les auteurs modernes, Machiavel, Hobbes, pour dire vite, assimilent l'action et la production. Ils méconnaissent, ignorent ou veulent ignorer la distinction entre agir et produire, et ils traitent le politique comme un producteur, comme un technicien, c'est-à-dire quelqu'un qui se fixe des buts et doit atteindre ses buts. Marche ou crève. Et alors évidemment, on change complètement de registre du point de vue de la morale. Tout le monde connaît l'adage machiavélien, il n'est pas de Machiavel à proprement parler, mais on l'attribue sans faute à Machiavel, la fin justifie les moyens. Cet adage, la fin justifie les moyens, suppose que l'on parle en termes de but et de moyens. Alors oui, si l'on parle en termes de but et de moyens, oui, la recherche du but justifie les moyens. C'est même une banalité énorme que de dire que la recherche du but justifie les moyens. Alors vous pouvez toujours essayer de discuter en disant « Oui, mais il faudrait peut-être des moyens gentils, il faudrait peut-être des moyens propres. » Si vous acceptez de raisonner en but, vous acceptez que ce qui prime, c'est l'efficience des moyens. Et donc vous ne pouvez rétablir la connaturalité de la politique et de la morale que si vous refusez de raisonner la politique en termes de but. Et c'est pour ça que j'avais pris soin tout à l'heure de dire attention, je parle de fin, je ne parle pas de but. Parce qu'un but, c'est le terme d'une production, c'est le terme d'une technique, alors qu'une fin, c'est une signification, c'est un sens. La différence entre un sens et un but, c'est qu'un but, on peut l'atteindre en trichant, un sens, on ne peut pas. La distinction est radicale et simple. Je peux atteindre le sommet en trichant, j'ai peut-être atteint le but, je n'ai pas réalisé le sens. Je peux avoir mon examen en trichant. J'ai peut-être atteint le but, j'ai pas réalisé le sens. Je peux échouer à mon examen sans tricher. J'ai peut-être pas atteint le but, mais j'ai réalisé le sens. Je parle de sens quand donc il y a inhérence des moyens et de la fin, et de but quand il y a extériorité procédurale des moyens et de la fin. Donc la question n'est pas de se demander est-ce que la fin justifie les moyens. La question est de se demander est-il bien raisonnable de parler de la politique en termes de but et de moyens. Rassurez-vous, je ne suis pas seul à dire ça. C'est ce que dit Hannah Arendt, qui, comme bien souvent, a là-dessus un point de vue lumineux dans la condition de l'homme moderne. Il ne suffit pas d'ajouter des distinctions en disant, par exemple, que tous les moyens ne sont pas permis et qu'en certaines circonstances, les moyens peuvent être plus importants que les fins, ou bien ces distinctions admettent sans examen un système moral qui, les exhortations le prouvent, ne va pas sans dire, ou bien elles succombent au langage et aux analogies qu'elles emploient. Car parler de fin qui ne justifie pas tous les moyens, c'est parler en paradoxe. La définition d'une fin, d'un but ici, hein, au sens que j'utilise, la définition d'un but étant précisément la justification des moyens. Et les paradoxes soulignent des énigmes. Tant que nous croirons avoir affaire à des buts et à des moyens dans le domaine politique, nous ne pourrons empêcher personne d'utiliser n'importe quel moyen pour poursuivre des buts reconnus. Je relis cette phrase qui me semble une clé. Tant que nous croirons avoir affaire à des buts et à des moyens dans le domaine politique, nous ne pourrons empêcher personne d'utiliser n'importe quel moyen pour atteindre des buts reconnus. Donc, ce passage par la philosophie des modernes, la philosophie mécaniste, l'antériorité de la volonté qui détermine des buts, sur l'intelligence qui détermine les moyens, met encore plus en lumière difficulté. Car il est vrai que la morale politique a une dimension qui lui est propre et que Machiavel souligne à juste titre, c'est que dans le domaine politique, il y a une exigence de succès. Puisqu'il s'agit de faire valoir son point de vue, il s'agit d'exercer un pouvoir, de faire triompher une idée. Je le disais tout à l'heure, à supposer que mes convictions soient bonnes, si elles sont impuissantes, c'est tout comme si elles étaient mauvaises. La vertu politique, alors à ce moment-là, c'est à prendre au sens ancien de vertu, hein, l'excellence, l'arrêté, la vertu politique passe bien par la capacité de l'emporter. Je suis obligé de passer très vite sur la troisième partie que j'avais promise, mais vos questions m'aideront peut-être à y retourner, puisque je voudrais vous laisser un temps pour que nous puissions discuter de ces questions qui ne sont pas faciles. Mais je voulais quand même risquer dans une troisième partie, quelques pistes de réflexion. Premièrement, ceci ne concerne pas directement, mais il vaudrait mieux que ce ne soit pas séparé, l'intégrité personnelle de l'homme politique. Est-ce que cet homme politique est un être avide, voluptueux, menteur, traître, etc. Il vaudrait mieux qu'il ne le soit pas. Il vaudrait mieux qu'il ne le soit pas si l'on veut être assuré qu'il ne va pas détourner les fins collectives, le bien commun, à son usage. Donc la vertu personnel de l'homme politique devrait nous assurer que son intégrité le met à l'abri de détourner le bien commun au profit de ses intérêts personnels plus ou moins bien composés. Toutefois, nous le verrons rapidement, cette intégrité personnelle n'exclut pas le compromis. Le champ de la politique, nous allons le voir rapidement, c'est celui du compromis. Je dégagerai trois points, de manière simple, pour faire plus vite. Le premier point, nous sommes responsables des moyens et non pas des fins. Nous sommes responsables des moyens et non pas des fins. Au fond, si on comprend bien l'analyse que j'ai faite de l'action, les fins ne nous appartiennent pas. On ne sait pas ce qu'on fait quand on agit. Et heureusement, on répond à une situation, on répond à une urgence. Je reprends mon exemple du 18 juin, il est certain que De Gaulle n'avait pas de plan. Il aurait eu un plan que d'ailleurs il n'aurait pas pu agir. Ça, c'était une des erreurs les plus massives et les plus abrutissantes dans l'entreprise. Où on passe son temps à dire, mais quel est votre plan, quel est votre projet, quelle est votre cible? Oui, quand il s'agit de produire quelque chose, ça va. Quand il s'agit de produire, je peux dire ma cible est de parvenir à produire 100 000 chaussures de plus. Mais dans l'ordre de l'action, il est impossible de raisonner en termes de plan de production d'objectifs. C'est l'erreur d'ailleurs de toutes les utopies que de commencer par définir un objectif et puis de dire « Eh bien, nous allons atteindre cet objectif. » Et c'est comme ça que toutes les utopies ont fait rouler des rouleaux compresseurs sanglants et effroyables sur le XXe siècle. Le monde entier a été sous une roue de sang au XXe siècle par des gens qui avaient déterminé un but, un plan, et traité l'ensemble de l'histoire comme une procédure technique. Donc c'est vraiment pas l'analogie opportune que celle qui consisterait à dire il faut avoir un but, il faut avoir un plan, etc. Non, au contraire, le propre de l'action, c'est que j'interviens sur l'événement avec ce que je suis. Je reprends mon analogie, je ne suis pas sûr qu'elle soit parfaite, de De Gaulle. De Gaulle agit sur l'événement avec ce qu'il est. Il ne se dit pas voilà ce que doit être la France, voilà mon programme, voilà mon plan, voilà, etc. Quand je vois une charrette embourbée, je la sors. Et je la sors avec tout ce que je suis. Ce qui m'a fait voir que la charrette était embourbée, c'est la qualité du regard qui est la mienne. Ce qui me permet de comprendre le sens de la situation, c'est le courage qui est le mien, le coup d'œil qui est le mien, le sens du risque, etc. C'est pour ça que rien n'est plus assommant que d'avoir à répondre à des gens qui vous disent « Mais quel est donc votre projet ?» Quand on voit que même ces pauvres fiancés sont maintenant tenus de rédiger des projets de vie, voilà 72 ans que je suis marié, j'ignore bien quel peut être mon projet de vie. J'en ai toujours pas. Il serait temps que je m'y mette. C'est absurde, quoi. Alors nous allons construire, je sais pas quoi. C'est une pensée de caisse d'épargne. C'est vraiment. Ça, bon, on se met pas en colère. Deuxièmement, donc premier point, nous sommes responsables des moyens et non pas des fins, car la fin, elle nous échappe. La loi de l'action, c'est que la fin nous échappe. C'est vraiment la loi de l'action. Je prends un exemple tout simple. Moi, je ne suis pas grand-chose, je suis professeur. Mais je sais bien que la loi de l'action, c'est qu'elle m'échappe, c'est-à-dire que je ne sais rien de ce que mon enseignement donne chez mes étudiants. Et ça serait atroce que je me dise, bah, attendez, j'ai un plan, c'est que je voudrais que sortent à la fin de l'année tant d'ingénieurs, tant de prêtres, tant de militaires, tant de trucs. Ou je voudrais tous qu'ils soient du Montien à la fin. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont devenir, et précisément, l'essence même de mon enseignement, c'est qu'ils m'échappent. Et s'il y a quelque chance que cet enseignement soit une action, c'est précisément dans l'acceptation qu'il m'échappe. Dans la désappropriation des fins. Et ça, c'est la désappropriation des fins, c'est une grande loi de l'action. Que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation, dans n'importe quoi. Et voilà pourquoi je suis responsable des moyens. Deuxièmement, donc je disais, il faut composer. Il faut composer parce que, précisément, donc on est dans un monde où il y a de l'adversité, de l'hostilité, des ennemis, et que l'art de l'homme d'action, il n'est justement pas de planifier, mais de composer. Au sens où un peintre compose. Le peintre compose avec les couleurs qui sont là, les situations qui sont là, les formes, etc. Et peu à peu, son tableau ne résulte pas d'un plan. Si son tableau résultait d'un plan, il serait un artisan, il ne serait pas un artiste. L'artisan est celui dont l'œuvre résulte d'un plan, l'artisan est dans le faire. L'artiste est celui dont l'œuvre résulte d'une inspiration, il n'est pas dans le faire, il est dans l'agir, ou comme disent nos contemporains, la création. Et donc un artisan peut faire des tableaux à la chaîne et améliorer la production et être très fier d'avoir fait ses tableaux plus vite, d'avoir fait plus de tableaux plus vite. Il est impensable qu'un artiste ou qu'un chef d'orchestre dise « Waouh, cette symphonie, je l'ai sortie en une demi-heure, impec. » Parce que justement, composer, c'est agir dans un monde complexe qui n'exclut pas le compromis, la concession, etc. Je pourrais revenir là-dessus. Mais enfin, je pense que c'est assez clair dans la mesure où on a compris qu'on ne pouvait pas être complètement indemne des rapports de force, donc de la nécessité de composer, d'autant plus que l'on n'est jamais assuré de détenir la meilleure solution. Ce qui renvoie à une troisième idée tout à fait fondamentale et qui là est caractéristique de l'inspiration chrétienne, c'est que il ne nous appartient pas de mettre un terme au mal. Il ne nous appartient pas de créer une société juste. Et il ne nous appartient pas de créer le ciel sur la terre. Et à chaque fois que les hommes ont voulu mettre le ciel sur la terre, eh bien ils y ont mis l'enfer. Et c'est justement ça, la nécessité de composer. C'est-à-dire qu'aucune loi, aucune éducation ne peut prétendre extirper le mal. Marat disait, il me faut 200 000 têtes. C'est un amateur. Staline, 80 millions. Ça, c'est efficace au moins. Or, que j'enlève 200 000 têtes ou que j'en enlève 80 millions, je me dis, bah allez, allez, on arrache une dent mauvaise, un bon coup, 200 000 têtes, et c'en est fini. Il y a combien de salauds en France? 200 000? Allez! Vous enlevez 200 000 salauds, pour enlever 200 000 salauds, vous en faites 400 000. et l'idée atroce, c'est de prétendre arracher le mal. D'où l'importance du compromis. Et ce qui est signifié par la parabole de l'ivraie du bon grain. N'arrachez pas l'ivraie, de peur d'arracher en même temps du bon grain. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il ne relève pas de nous d'avoir un plan, d'avoir un projet de société à établir, etc., dans lequel il n'y aurait plus de rage de dents ni de belle-mère. Non, les belles-mères font partie du paysage, elles sont bien nécessaires. Et voilà, on ne peut pas arracher l'ivraie de crainte d'arracher le bon grain. En conclusion, je dirais donc que la politique est bien la plus haute responsabilité morale, à condition que, et c'est vrai, je pense, de beaucoup d'hommes politiques, quoi qu'on en dise, à condition que, dans l'action, ce qui prime, c'est le sens du service. Et on peut dire que l'exercice de la politique, c'est la conversion du pouvoir en service. La possibilité de convertir le pouvoir en service, pourvu que, précisément, cela ne se confonde pas avec la poursuite technique d'un plan, car à chaque fois que je poursuivrai un plan, j'utiliserai les gens comme des moyens. Et à chaque fois que j'utiliserai les gens comme des moyens, je contredirai l'idée même que je les serve. Et donc, elle ne répond pas tout à fait aux critères de la morale personnelle, puisqu'il y a une nécessité de la réussite, il y a une nécessité du compromis. Elle ne correspond pas, évidemment, j'ai assez insisté, aux critères de production. Il faut réussir en politique, mais la difficulté, c'est qu'on ne sait absolument pas à quel moment cette réussite sera évaluée. C'est ça le propre du risque. Voilà, j'ai été rapide sur la fin, j'ai été obscur au début. Autant de raisons pour vous d'intervenir et de m'aider à clarifier tel ou tel propos.
On dit souvent que nos hommes politiques manquent de vision. Où situez-vous la vision? Est-ce qu'elle est exclue de la planification, de l'organisation, etc.? Elle est dans l'action?
Dans l'action. Cette métaphore de la vision est une métaphore qui est assez intéressante, qui est la capacité, en fonction de l'attention, de la vigilance, de l'expérience, du génie peut-être, de saisir la complexité d'une situation. Et de saisir, dans la complexité d'une situation, ce qui est en elle, ce qui offre en elle des marges de liberté. Je prends une analogie que chacun peut comprendre, c'est ce qu'il y a d'admirable chez les très grands champions sportifs. Mettons Lionel Messi. Pour ceux qui sont sensibles à cette comparaison, celui qui, dans la configuration d'un terrain, est capable d'apercevoir les lignes de faille, la possibilité où une initiative peut s'engouffrer. Et ce coup d'œil, c'est ce que De Gaulle dit dans le fil de l'épée. Dans le fil de l'épée, De Gaulle a un texte magnifique sur justement... Et donc ça, le fil de l'épée, il l'a écrit bien avant son action. Il était tout jeune professeur à l'école de guerre, je sais plus où il était. Et donc dans le fil de l'épée, il a une très belle page inspirée de Bergson. Il faut lire le fil de l'épée si on a la politique au programme. Il dit justement que le propre de la conscience, c'est de faire surgir de nouveau, et que celui qui a le coup d'œil, c'est celui qui, dans une configuration, peut introduire du nouveau. C'est pour ça, par exemple, qu'il faut se garder comme de la peste, et c'est Alain et Kant disent la même chose, et je suis d'accord avec eux, il faut se garder comme de la peste de l'enseignement de la morale par des cas. En entreprise, on adore ça. On va décrire des cas, mais si vous décrivez un cas, vous le donnez précisément comme tout fait. Et si vous me décrivez un cas comme tout fait, ben vous me mettez devant la falaise d'un destin. Le propre de l'action, c'est que précisément le cas n'est pas tout fait et que le coup d'œil saisit des anfractuosités, des lignes de faille, et fait surgir des possibles là où un regard un peu gourd ne voit rien. Et je crois que la capacité de vision, c'est ça, et c'est grandement lié, alors on le voit chez les grands chefs d'entreprise, on le voit chez les grands politiques, on le voit chez les grands sportifs, c'est lié à la liberté d'esprit de celui qui ne va pas s'embarrasser de savoir quelles sont les procédures, c'est lié à la qualité de l'attention, à la qualité de la culture, à la qualité de la vie intérieure. Je suis persuadé que c'est lié à la qualité de la vie intérieure, car l'attention est la forme naturelle de la prière, et celui qui a suffisamment, au fond, mûri une situation de l'intérieur, il est capable de voir dans une configuration ce que nul autre n'a vu. Sinon, si vous enseignez la morale par cas, vous n'en sortez pas. Moi, il m'est arrivé comme ça de faire des enseignements sur la fidélité conjugale avec des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une créature torride entre les bras ?» Ben, je sais bien ce que je ferais. Tout le monde sait ce que je ferais. C'est pas sorcier. Et si on présente une situation figée, c'est absurde. Comme si tout ce qui précède ne l'avait pas rendu possible, tout ce qui suit n'était pas ouvert au possible, etc. Donc voilà, c'est celui pour lequel, il faudrait dire, le coup d'œil, c'est celui devant lequel il y a des situations et non pas des destins. Voilà.
Le problème, je pense, c'est beaucoup le mensonge, la vérité. Est-ce qu'un homme politique qui ne dirait que la vérité, est-ce qu'il a de quelconque chance d'arriver à tout ça? Est-ce que, finalement, quelque part, le citoyen n'attend pas qu'on lui mente?
Alors, la question du mensonge est une question qui est classique en philosophie, puisque Platon, dans La République, quand il imagine la cité idéale, parle du pieux mensonge, du mensonge... Bon, vous n'en savez rien. Mensonge sacré, enfin, quelque chose comme ça. Mais mentir, c'est toujours traiter l'autre comme un moyen. C'est toujours présupposer qu'il ne comprendra pas. C'est prendre sur lui un coup d'avance. Et donc, mentir, c'est vraiment contredire la situation d'égalité. Je crois que la réalité politique est bien plus celle de la contradiction des opinions que du mensonge. L'homme politique, ce n'est pas essentiellement celui qui ment, mais c'est celui qui accepte de rentrer dans l'arène de la contradiction. Et c'est la démocratie que je suis en train de vous décrire. Ce qu'essaye d'être la démocratie, c'est-à-dire de déployer l'enceinte où la contradiction peut se dire, qui dispenserait d'avoir à mentir. Et le mensonge est au fond toujours un échec, toujours une oppression. Un homme politique, un homme qui exerce une responsabilité politique, quelle qu'elle soit, devrait se garder du mensonge. Peut-être peut-on répondre comme Giscard d'Estaing qui avait fait ce soir-là une bonne réponse. Quand on lui avait demandé « Avez-vous menti ?», avait répondu « Je n'ai jamais menti. » Ça en fait peut-être un de plus. Je n'ai jamais menti, mais j'ai des secrets.
Ceux qui perdent.
Oh, non, à l'époque, il gagnait. Ni l'un ni l'autre n'aimait beaucoup la démocratie.
Mais quand on regarde l'homme des modernes, donc on pense par les piétins, parce qu'il est très plutôt une entité, une ordre de tyran pour gouverner. Si on prend Rousseau, qui prône la collectivité, il dit bien, on fait des lois, ensuite les lois s'imposent à tout le monde, et on peut donner le pouvoir à n'importe qui. Mais il rajoute quand même qu'il vaut mieux que ce soit des gens qui arrivent. Donc, il est quand même gêné quelque part, comme on en dit, il vaut peut-être mieux qu'il y ait une certaine compétence quand même pour gouverner. On ressort pratiquement toujours ceci. Même écueil, dans son sens de l'ordre, prenait le royaume prussien comme étant un peu l'idéal de l'ensemble du système. Alors, j'en arrive à une chose, ça me rappelle un dessin humoristique où il y avait une. Ça parle des votants, il y avait. Sans d'un côté, dit de l'autre, et le gars qui regarde ça, qui dit, ça y est, j'ai trouvé mon cœur. Alors moi, il y a une chose qui m'a grandi depuis très longtemps, quand j'étais déjà chrétien, c'était, je m'étais dit, mais si dans une classe, 5 qui ont le devoir juste, on dit, et 15 qui ont faux sont les 15 qui ont raison, il y a quelque chose quand même qui va en brèche la démocratie. Et ça, je ne suis pas arrivé à trouver quelque chose qui me.
Parce que votre analogie ne convient pas. Votre analogie ne convient pas parce qu'il est évident que le professeur de mathématiques ne va pas dire que la réponse juste est celle qui est donnée par la majorité. Parce que nous sommes dans un ordre où ce qui est en jeu, c'est justement une compétence et une vérité de type objectif. Alors que devant l'événement, il n'y a pas de modèle préétabli. Et comme il n'y a pas de modèle préétabli, on ne peut pas dire sur une feuille de papier, voilà la réponse juste. On est devant l'événement. Devant un fait, on peut dire quelle est la bonne réponse. Mais devant un événement, il n'y a pas de modèle. Et de telle sorte que la démocratie est un compromis entre le rapport de force et le dialogue. Attendez, je termine. Le rapport de force, parce qu'au fond, donner le pouvoir à la majorité, c'est une forme de rapport de force. Et dialogue, parce que la détermination de ce rapport passe par un débat, et on débat là où la vérité n'est pas prédéfinie. Et en politique, il n'y a pas de vérité prédéfinie.
Mais monsieur, quand on vote, on va voter pour des personnes qui, elles, effectivement, vont être amenées à peut-être prendre un sens à leur action, peut-être. Mais nous votons pour des gens qui nous paraîtront quand même, et c'est ce que je disais, qui ressort toujours, même dans les philosophes modernes, une certaine compétence. Sinon, nous ne voterions pour n'importe quel.
C'est un peu le cas. Au fond, c'est un peu le cas. Oui, mais c'est une approximation. C'est une approximation qui passe par... On peut se choquer que le succès politique passe par des effets de manche, par des beaux discours, par etc. Vous voudriez qu'on passe au tableau noir ? Non ! Il faut des effets de manche, exactement comme au tribunal, il faut des effets de manche. On peut se choquer que le sort d'un homme se décide avec des effets de manche. Mais le sort d'un homme se décide avec des effets de manche parce qu'au tribunal, il n'y a pas plus de vérité objective. Et qu'au moment de prendre une décision, ce qu'il s'agit, c'est de mobiliser les volontés plus que de dire ce qui est la vérité.
Et en fait, tous les politiques qui font la politique toutes les semaines, en fait, c'est une bonne politique.
En fait, l'exigence de donner des programmes est une certaine manière de deviner la philosophie qui inspire quelqu'un, son type d'être, son type de... Mais, au fond, l'élection, elle cherche le charisme plus que la compétence. Et c'est vrai que on ne compte pas trop sur le fait qu'un homme politique soit un ingénieur qui réalisera son plan. Le plan qu'il nous indique, c'est plus celui d'un artiste que celui d'un ingénieur. Et au bout du compte, il sera obligé de godiller avec l'événement. Et ce qu'on cherche à deviner, c'est quelle sera sa capacité à godiller avec l'événement.
Quels seront les fondements de sa décision ?
Quels sont les fondements de sa décision ? Et les fondements d'une décision ne se confondent pas avec une idéologie. Une idéologie, c'est une décision présentée comme un plan. La vraie question qui importe, c'est quelle sera sa capacité à décider de l'événement. Et ça, on le voit à travers des choses qui sont... On peut se lamenter qu'elles soient irrationnelles, mais il serait pire qu'elles soient rationnelles. Parce que il serait pire Staline parlait de l'ingénieur social. Mais d'avoir affaire à des ingénieurs sociaux, ça serait vraiment la situation la pire.
Est-ce qu'on peut parler d'entreprise organisateur ?
Oui, mais je n'adhérerai pas pleinement à la personnalité ni à la pensée de celui qui a utilisé cette expression, qui était Maurras. Mais l'expression empirisme organisateur est une bonne expression, oui. Oui, oui. D'ailleurs, l'idée d'organisation corrige et améliore celle d'ordre que j'ai énoncée au début. Parce que dans l'idée d'organisation, il y a quelque chose de plus complexe que l'ordre. L'ordre peut être mécanique alors que l'organisation est vitale. Dans organisation, il y a organisme. Et sans doute, l'idée d'organisation est-elle au fond plus juste que celle d'ordre qui, à la rigueur, pourrait être interprétée de manière toute mécanique. Donc, empirisme organisateur, c'est assez bien dit. Bon. Dernière question. Dernière question, dernière réponse.
Aristote dit que la politique, c'est de citer le bien du plus grand nombre, de la cité, bien commun. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, la politique a quand même un programme, un but? Ou est-ce que c'est vraiment conduire une voiture sans frein et juste en essayant de monter les arbres ?
Je ne suis pas sûr qu'Aristote dise que la politique est de déterminer le bien commun. Je ne vois pas. Enfin, vous connaissez peut-être mieux Aristote que moi, même sûrement, puisque vous en avez une lecture plus fraîche. Mais ça, c'est une formule des aristotéliciens. Je ne suis pas sûr qu'Aristote dise ça. Puisque Aristote prend bien... Et Aristote dit, il faut mesurer... C'est un principe scout. Il faut mesurer la vertu d'un homme à la capacité qu'il a à décider pour les autres. Ça, c'est un principe scout. Voulez-vous faire progresser un homme, donnez-lui une responsabilité. Mais, et à partir du moment où... la prudence, c'est la capacité d'évaluer le bien pour tous à l'aune du bien pour soi. C'est pas le bien commun, donc faut surtout se garder de confondre le bien commun avec l'intérêt général, avec la volonté générale. C'est trois notions différentes. Et je ne suis pas sûr que l'expression de bien commun soit vraiment d'Aristote. Vérifiez. Elle est des aristotéliciens. Ce qui est autre chose. Merci.
Oui, une page où il le dit.